Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est à New York, aux États-Unis, qu'a lieu en ce moment un rendez-vous essentiel pour la lutte contre les grandes épidémies. Il s'agit de la 7e reconstitution des ressources du Fonds mondial. Événement crucial donc, qui va déterminer les moyens consentis à l'échelle planétaire pour lutter contre le sida, le paludisme et la tuberculose pour les 3 prochaines années en fonction des budgets alloués par les différents États. La communauté internationale espère 18 milliards de dollars au minimum pour sauver 20 millions de vies et permettre de relancer le combat contre ces 3 grandes infections transmissibles. Cette manne est indispensable si l'on garde à l'esprit l'objectif 2030 pour éliminer le sida, échéance remise sérieusement en question ces dernières années. Au-delà des chiffres et de la politique, Priorité Santé a suivi le travail d'une petite ONG ivoirienne qui bénéficie entre autres de l'argent du Fonds mondial, l'occasion de montrer à quoi sert l'argent investi et ce qu'il permet de faire très concrètement sur le terrain. Notre reporter Igor Strauss a suivi le quotidien du centre SAS Solidarité Action Sociale qui a été créé en 1995. Cette ONG s'est spécialisée dans la prise en charge et le suivi des jeunes nés séropositifs ou qui ont contracté la maladie très tôt lors d'accidents de la vie souvent tragiques. Jusqu'à présent, il n'existait aucun programme spécifique pour les adolescents. Alors comment se passe le suivi de ces jeunes? Quelles sont les difficultés dans leur prise en charge? Quelles sont leurs interrogations? Quelles sont leurs attentes nés séropositifs? C'est un reportage d'Igor Strauss réalisé par Tiffany Menta et Victor Hull.
C'est Connie Flora, il y a 22 ans, je suis en classe de terminale. Bon, je suis née de séropositif, j'ai contracté la maladie avec ma mère. Ma maman n'avait pas ça, mais c'est pas mon père qui a contracté la maladie. Père à son nom, il n'est pas venu parler mal de lui. Bon, lui, il a eu ça en ville, et puis il a contaminé ma maman. Et quand elle a accouché, la maladie a commencé à se manifester sur elle. Quelques jours plus tard, elle a rendu l'âme. Donc, le fait que mon papa s'était décédé, on dit que la famille d'ici n'était pas au courant. J'étais bébé, nouveau-né, j'étais pas au courant. Je ne connais pas mes parents. C'est après ça, on dit que quand j'ai commencé à avoir des boutons sur mon corps, ma grand-mère faisait les médicaments traditionnels, les trucs, tout, mais ça n'allait pas toujours. Comme j'ai un oncle qui est médecin, qui travaille ici, au Sensat ici, c'est un jour, lui, il est venu me prendre. Puisqu'il n'y avait pas longtemps, c'est lui ce qui partait me rendre visite comme côté paternel. Et c'est lui que je connais qu'aujourd'hui. C'est lui qui est venu me prendre un jour, puis il est venu faire mon test de dépistage. Ils ont dit, ah, il était séropositif. J'avais 3 ans. Mais après, il a fait part de cela à mes parents côté maternel. Eux, ils étaient déjà découragés sur place. Ils avaient déjà signé que non, j'allais plus vivre. Lui, il a dit, en tant que médecin, elle va vivre. Parce qu'il y a d'autres qui vivent de ça, il y a d'autres qui travaillent, il y a d'autres qui sont à l'école, il y a d'autres qui vont à l'école, ils sont là seul. Donc, j'ai commencé à faire le traitement. Mais arrivé à un moment, 5 ans, 6 ans, je ne prenais pas. Moi, je n'aimais pas ça. Et puis, le jour que ma grand-mère allait me dire, je ne savais pas que ma maman était décédée. Ni mon papa aussi. Ça, là, les 10 ans, ils m'ont tout dit, même jour. Où ils étaient séropositifs, où on dit non, tes parents. Parce que c'est la grande soeur de maman que je connaissais comme maman. Puisqu'il y avait une ressemblance, elle aussi m'avait pris comme sa fille. À cause de ça, quand je vais à l'école, je partais à l'école, je ne parlais plus. Je ne participais plus. Souvent, je suis assise et puis je pleurais. Au plus profond de moi, j'ai mal. Je n'arrivais pas à exprimer ma douleur. J'avais pas Je ne savais pas avec qui parler. Donc, je me suis retirée. Je ne me confie plus à quelqu'un.
Aujourd'hui, comment ça va?
Je suis à l'aise, au fait. J'ai accepté. On ne peut rien y faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est de suivre l'être de tout le monde. Si aujourd'hui tu es stable, même si on dit ça ne peut pas finir, mais aujourd'hui tu es stable, stable au moins, tu ne peux pas contaminer. Donc, je remercie le bon Dieu. Il y a deux qui cherchent ça. Il y a deux qui ne sont pas encore conscients de cela. Je remercie les médecins aussi qui m'ont donné le courage de continuer le traitement jusqu'à présent.
La PTME est rentrée dans le paquet minimum de services au niveau des centres de santé. Donc, ça fait partie du paquet des services à offrir obligatoirement aux femmes enceintes. Mais avant ça, il y avait un déni total. Les prestataires ne s'occupaient pas de cet aspect de la prise en charge. Et puis, quand on regarde le contexte de l'accouchement au niveau de la santé mère-enfant en Côte d'Ivoire, il y a environ un tiers des femmes enceintes qui ne couchent pas sous assistance médicale, donc qui échappent au système. Donc ça fait que cette question de transmission mère-enfant reste encore problématique ou était très élevée par le passé. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'évolution. Dans notre centre ici, on avait fait plus de 5 ans sans avoir un enfant né séropositif. Ce n'est que dernièrement où avec des adolescentes enceintes qui elles-mêmes s'auto-stigmatisaient, qui échappaient au contrôle. Donc on a eu un cas d'enfant de séropositif. Et aujourd'hui, ce qu'on doit gérer, c'est ceux qui grandissent avec.
Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
On va revenir avec vous sur ce que vient de dire Dao Siaka, le directeur des programmes de l'ONG Centre SAS. Mais pour commencer, peut-être d'abord une présentation de cette organisation non gouvernementale. Tout d'abord, des éléments sur son financement.
Le centre SAS bénéficie des contributions d'une dizaine de partenaires. Il y a donc le Fonds mondial à travers Alliance Côte d'Ivoire. Il y a Expertise France, grâce à qui j'ai pu réaliser ce reportage. Mais également le site d'action USAID à travers l'ONG Save the Children ou le PEPFAR. Alors sur le papier, cela fait beaucoup de partenaires, Caroline. Mais dans les faits, vous allez vite comprendre que ce n'est pas assez et que ces associations de terrain qui font un travail remarquable, bien ont besoin de financements plus conséquents et c'est vraiment un message important à faire passer.
Alors Igor, revenons à ce centre Solidarité Action Sociale. Depuis quand est-il engagé dans la lutte contre le VIH ?
Eh bien, tout a commencé en 1995 à Boaké et le centre SAS s'est vite spécialisé dans le suivi des adolescents séropositifs. Ces jeunes qui ont des besoins particuliers étaient considérés comme des adultes, on se contentait de leur dispenser leur traitement sans plus d'explications, sans prendre le temps de parler de la maladie. Et surtout, sans prendre le temps de les écouter et de répondre à leurs questions, à leurs craintes. Beaucoup d'adolescents ont donc arrêté de prendre leur traitement sans le dire. Certains en sont morts, d'autres ont dû être mis sous traitement de seconde ligne. Le centre SAS est donc venu apporter un soutien et une aide à une population, les adolescents, qui en avaient besoin et qui en étaient privés. Et cette aide, Caroline, ne se résume pas à une aide médicale, bien qu'elle soit fondamentale évidemment. Il y a également une aide psychosociale, un soutien aux études et un appui alimentaire, puisque malheureusement, beaucoup de ces adolescents sont orphelins, leurs parents ayant succombé au VIH. Aujourd'hui, le centre SAS suit près de 3000 familles.
Des enfants qui sont donc nés séropositifs, puisque la PTME, la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, n'était pas systématique à l'époque, comme le rappelait Dao Siaka tout à l'heure.
C'est vrai, et il y a eu de gros progrès en ce sens, même si certains, par manque de connaissances, échappent encore au dépistage et au suivi. Mais l'absence de PTME, donc cette fameuse prévention de la transmission mère-enfant, n'est pas la seule explication. J'ai rencontré au centre une adolescente de 14 ans, séropositive, alors que ses parents étaient négatifs. Un des médecins du centre, le docteur Diarra, m'a donc expliqué qu'elle avait contracté la maladie à la naissance, transmise par sa grand-mère qui, elle, était séropositive et qui s'était occupée de l'accouchement de sa fille. Et puis, il y a également des adolescents qui ne naissent pas séropositifs, mais qui contractent très tôt la maladie en raison de relations sexuelles non protégées très précoces ou malheureusement de viols.
Igor Strauss, vous avez donc donné la parole à ces adolescents. Et ces jeunes, on va l'entendre, ils ont beaucoup de choses à dire.
Mon prénom est Hugues et j'ai 18 ans. J'ai appris que j'étais séropositif en 2017 et en 2017 j'avais 13 ans. Cela a été très douloureux parce que d'abord la maladie a eu effet au niveau scolaire. Alors, lorsque j'allais au CP1 pour la première fois, je ne terminais pas l'année scolaire parce qu'à chaque fois, je tombais malade à cause de la prise des médicaments, parce que je prenais mal. C'est vrai que ma mère me les donnait, mais étant donné qu'elle avait divorcé avec mon père, donc elle devait aller travailler pour envoyer de l'argent à la maison. À l'âge de 5 ans, je devais prendre mes médicaments moi seul. Donc il y avait tous ces problèmes-là. C'est lorsque je suis arrivé au CM2 que les réels problèmes ont commencé, parce que j'ai commencé à maigrir. Maintenant, il y a la deuxième femme de mon père qui m'appelait Sidéen. J'étais stigmatisé à la maison. Lorsque j'arrive à la maison, on me dit, voici le Sidéen qui arrive là-bas, au village, au quartier. Voici le Sidéen, ceci, celui-là. Et ma mère aussi pleurait chaque jour. Elle pleurait. Parce que elle n'était pas là, mais à chaque fois que je partais rendre visite à mon père, je mangeais seul, je faisais tout seul. Et à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi je prenais les médicaments. Donc, j'ai commencé à avoir un esprit de curiosité, à chercher à savoir, mais pourquoi moi je prends les médicaments? Lorsque ma mère a assisté à cette discussion-là, elle a commencé à me cacher les ordonnances. Lorsque je viens à l'hôpital, je pose des questions, personne ne me répond. Tout et tout, on me dit que non, que c'est pas le moment. Et un jour, elle est sortie, je me suis dit aujourd'hui-là, je dois connaître la vérité. Donc, je suis allé dans sa chambre, j'ai commencé à fouiller. J'ai vu mon nom. Sur une ordonnance, je vois VIH. Donc, j'ai compris tout de suite que j'étais déjà séropositif. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et lorsqu'elle est venue, je lui ai demandé que pourquoi elle m'a caché tout cela. Elle a commencé à m'expliquer. En ce moment, j'avais 13 ans. Et j'ai fait 2 jours, je ne parlais avec personne. Parce que pour moi, tout le monde m'a trahi. Parce que comment on peut me cacher une telle vérité? Et ce qui a fait que j'ai commencé à détester mon père, c'est parce qu'il a été infidèle à ma mère. La suite de cela qu'il a eu la maladie, parce que mes autres frères ne l'ont pas. C'est moi et ma grande soeur, on a contracté la maladie, parce qu'il a été infidèle. Mais j'ai compris que tout ce qui doit arriver arrive. Je pense que c'est vrai qu'il était adulte, mais il a manqué un peu d'inconscience, raison pour laquelle il a fait cela. Avec le conseil, j'ai tout de suite repris goût à la vie, quoi. En vouloir une personne toute sa vie, ce n'est pas le nécessaire. Tout ce qu'il faut, c'est savoir pardonner aux autres et avancer dans la vie. C'est ce que j'ai appris au centre. C'est ce qu'on m'a appris à travers le conseiller, à travers le club des amis. Et c'est sur cette base-là que j'avance. Voilà. Ne pas garder en cœur, savoir se libérer et avancer dans la vie, quoi.
Comment vous envisagez l'avenir, vous, aujourd'hui?
Pour mon objectif actuellement, c'est sortir ma mère de la galère. Et je me suis dit comme ça que ce que je suis en train de vivre en mon enfance, mais moi, mes enfants ne doivent pas le vivre. Parce que mon enfance a été trop douloureux. Mon enfance a été douloureux. Donc, je ne veux pas que mes enfants revivent cette situation-là. Donc, ce qui me motive à étudier à l'école. Je compte tout faire pour atteindre mes objectifs.
Docteur Zran-Loi Roland, je suis médecin. Je suis le responsable du service médical de l'ONG SANSAS. Avant la mise en œuvre du projet à 200%, il faut dire qu'en termes de prise en charge dans les directives nationales, on n'avait pas inclus, pris en compte la spécificité des adolescents. On mettait les adolescents dans le grand groupe des adultes, où convenait au moins que les adolescents, c'est une tranche de population vraiment qui connaissent des bouleversements, tant au plan physique que psychologique. Donc, prendre en charge un adolescent comme un enfant, ce serait une erreur. Prendre en charge un adolescent comme un adulte, c'est une grosse erreur. Donc, le projet est venu pour nous montrer un peu comment il faut pouvoir prendre en charge sur le plan médical et sur le plan psychologique les adolescents. Pour les acquis, lorsqu'on allait sur les sites de prise en charge, c'est qu'on remarquait. Les prestataires n'avaient pas d'informations sur le plan médical qui avaient un sous-dosage au niveau de la prescription médicale et qui pouvait justifier pour l'échec de traitement. Une chose qu'on a remarqué également lorsqu'on allait sur les sites, c'est au niveau de l'annonce du statut à l'adolescent. À un moment donné de son évolution, 6-7 ans, il faut donner l'information sur la maladie. C'est vraiment adapté à son âge.
Sans préciser forcément quelle est la maladie, sans citer le VIH.
Il y a un mal, voilà. Pour que l'enfant puisse déjà connaître sa maladie, pas connaître en tant que VIH, mais savoir qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans son organisme. Et que c'est quelque chose qui peut être dompté à travers le traitement, d'accord? Et vers 12 ans, on dit à cet enfant-là, avec selon son niveau de compréhension, bien sûr, quand il va poser beaucoup de questions, on peut lui donner l'information avec l'accord des parents, bien sûr, que ce qu'on lui disait quand il était tout petit, c'est en réalité le VIH. Après l'annonce, il faut faire un suivi pour voir le niveau de compréhension, comment l'enfant a intégré cette nouvelle information dans sa vie. Parce que vous comprenez que si je prends des médicaments tout petit et qu'à un moment dans l'adolescence où je vais avoir des réponses à mes questions et que personne ne veut me donner des réponses, je ne vais pas trouver utile de continuer à prendre des médicaments. Donc ça a entraîné de nombreuses inobservances au traitement. Donc maintenant, c'est pris en compte. Et on a remarqué que lorsque c'était pris en compte, on a eu moins d'adolescents inobservants. Il y a l'autre aspect qui est important aussi, c'est l'aspect nutritionnel. On s'est dit que déjà, le VIH fragilise l'organisme, d'accord? Et quand lorsque l'adolescent ne mange pas convenablement, vous voyez que ça peut avoir des répercussions négatives sur son état de santé. Donc ça a été pris en compte. Il y avait la notion de travail en équipe. Ce qu'on remarquait, c'est que chacun travaille de son côté, c'est-à-dire quoi? L'agent communautaire faisait ses activités, le médecin faisait sa prescription, sans tenir compte souvent de l'aspect social du patient. Donc, lorsqu'on est arrivé, on leur a montré l'intérêt de faire des réunions pluridisciplinaires où chacun donnera des informations sur l'adolescent. Donc, le médecin donnera des informations sur l'histoire thérapeutique et tout ce qui va avec, et l'agent communautaire va donner des informations sur le vécu de l'enfant dans la famille, son environnement familial, son environnement scolaire, tout ça. Et ça, là, ça contribuait à pouvoir mieux prendre en charge l'adolescent.
Est-ce que le premier patient peut rentrer? Ah ben, qu'est-ce qu'il a grandi? Il ne reconnaît même plus. Ça va? Ça va bien? D'accord, ok. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin?
Ça va.
Ça va? Non. Maintenant, dites-moi, les médicaments, il y en a encore? Ou bien c'est fini?
Il y a un truc.
Bien, donc votre rendez-vous, c'est aujourd'hui. Ça fait la troisième charge virale consécutive, c'est supprimé, vous êtes même indétectable, c'est très bon. Vous prenez les médicaments très bien, ça va, nous sommes ravis, d'accord? Mais vous devez continuer comme ça, d'accord? On vous a expliqué un peu pourquoi il faut prendre les médicaments chaque jour, n'est-ce pas?
Oui.
D'accord. À 14 ans, c'est sûr que je vais vérifier quelque chose. Est-ce que vous savez déjà ce que vous avez? Vous souffrez de quoi? Pourquoi prenez les médicaments? Vous savez?
Ce que je sais, on dit qu'il y a des microbes dans mon sang.
D'accord. C'est qui en a parlé avec toi? Le conseiller, le médecin ou bien la famille?
Il y a un monsieur qui est dans un bureau là-bas.
L'assistant social. Monsieur Tini?
Oui.
L'assistant social, ok. Il est revenu dessus après?
Non.
Non. D'accord. Donc, ce qu'on va faire à 14 ans, normalement, on doit vous donner davantage d'informations sur la maladie, d'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais finir d'enregistrer et puis de vous produire votre ordonnance. Et puis après, vous irez voir l'assistant social qui va essayer de compléter un peu les informations sur la maladie, d'accord? C'est vrai qu'on ne vous a pas encore dit les choses. On vous a dit, en parlant des micros, mais vous-même, à votre propre niveau, est-ce que vous avez une idée?
Quand je prends les médicaments, je me sens en bonne santé. C'est pour ça que je ne me décroche pas.
Ah, mais vous ne savez pas, tu n'as pas encore une idée de ce que ça peut être, c'est ça?
Non.
D'accord, bravo. D'accord, bon, donc aujourd'hui, on va essayer de vous donner davantage d'informations. D'accord? Donc le psychologue va vous voir, il va venir d'ici peu. Hein? Donc en dehors de papa et maman, qui sait encore que tu prends des médicaments?
Ma grand-mère.
Ta grand-mère. Ah d'accord.
Et le papa et la maman, ils prennent aussi des médicaments?
Non.
Mais la grand-mère, elle prend des médicaments, c'est ça, elle?
Oui.
Elle prend des médicaments.
Oui.
D'accord.
Et vous, ça fait combien de temps que vous prenez les médicaments, vous savez?
Je pense que depuis mon enfance.
Depuis l'enfance?
Bien, donc, le prochain rendez-vous. Donc, ton rendez-vous, c'est le 7 décembre. C'est bon? C'est un mercredi. D'accord. Et donc, avant ce mercredi, on va voir avec l'assistant social comment t'intégrer dans un groupe. Parce que tu vois, tous les mercredis, c'est le jour dédié spécialement aux adolescents. Donc, c'est tous les mercredis, tout le monde se retrouve ici. Il y a des repas communautaires. Hein? Vous allez venir vous amuser, passer un tour à la bibliothèque. Hein? Passer en revue des thématiques avec les pères éducateurs qui sont là. Voilà, ça va te permettre d'avoir des amis, d'échanger. D'accord? Y a-t-il des questions, des préoccupations? Tu voudrais savoir d'autres choses qu'on n'a pas, peut-être qu'on n'a pas touché?
Non.
Donc, docteur Dura, cette jeune patiente, elle est née séropositive, tout simplement, c'est ça?
Oui, elle est née séropositive, transmission verticale. Mais comme il a dit son dossier un peu... parce que les deux parents ne sont pas séropositifs. C'est la grand-mère qui est séropositive. Et elle est séropositive également. Ça peut être lors de l'accouchement, peut-être dans la manipulation. Tu sais qu'en Afrique, les grand-mères s'occupent de leurs petits-fils. Donc peut-être au lavage, lors des bains, ce genre de choses, ça peut arriver. La difficulté est le fait que les parents, maman et papa, ne vivent pas la même réalité qu'elle. Voilà, donc on essaie de voir un peu, avec l'appui des VAD, les visites à domicile, permettre à ces parents-là de venir, de continuer à soutenir cet enfant.
Docteur Diarra, de façon générale, dans la prise en charge, quelles sont les principales difficultés rencontrées par ces adolescents?
Quand on parle d'adolescents, il faut revenir déjà au processus général même de l'adolescence. Le goût pour le risque, la rébellion, le combat à la maison, la révolte, le désir d'autonomie, le désir d'affirmation de soi. Enfin. Et quand le VIH vient s'y mettre, ça devient, on dira, un double impact sur l'adolescent. Parce qu'à partir de là, une dévalorisation, il a une réduction de l'estime de soi, il ne se sent pas comme les autres. Et donc, autant de difficultés qui font que l'adolescent, dans la prise en charge, la vraie difficulté, c'est liée surtout à l'appropriation ou bien à l'acceptation par l'adolescent. Les difficultés de l'adolescent, on les classe dans, je dirais, trois déterminants. Le premier déterminant, c'est le savoir. Il peut ne pas accepter parce qu'il ne sait pas. Soit il n'a pas l'annonce comme il faut, soit l'annonce est incomplète. Donc, il peut ne pas savoir. Donc, s'il ne sait pas, il va s'en dire qu'il n'aura pas trop d'engouement quant à la prise de médicaments. La deuxième chose, il peut savoir, mais il peut ne pas pouvoir. C'est-à-dire, il sait qu'il a la maladie, il sait ce que c'est que la maladie, ce que c'est que le traitement, mais l'accessibilité, le transport pour pouvoir se rendre sur les lieux, dans le service, pour pouvoir se procurer les médicaments. Quand le médecin lui dit un comprimé trois fois par jour après repas, ça veut dire qu'il doit pouvoir manger d'abord, sinon quand il ne mange pas, il ne pourra pas prendre. Autant de difficultés. Donc il sait, il ne peut pas. Et le dernier déterminant, c'est le vouloir. Il peut ne pas vouloir inconsciemment, peut-être que parce que la maladie et puis la considération de la maladie, la stigmatisation, autant de facteurs ont fini par le déprimer. Donc il est dans un état second. Donc il ne veut pas. Parce qu'il en a marre, parce qu'il n'accepte pas la maladie, parce que le déni et tout ça.
On se rend compte aussi que les parents, lorsque ces enfants ne sont pas orphelins, les parents ont un rôle à jouer essentiel.
Très essentiel. Parce que dans notre jargon, on dit le parent, il devient le partenaire thérapeutique. Il doit participer, il doit s'impliquer. Le meilleur environnement pour la prise en charge efficace de l'adolescent, ce n'est pas à l'hôpital, c'est à la maison. Donc, il faut éduquer le parent à accompagner l'enfant dans la prise en charge. Il va essayer de traduire en langue facile tout ce que le médecin a dit, en tout cas, et il va suivre. Est-ce que le médecin, c'est que le médecin a dit, est-ce que l'enfant a compris ou pas? Donc, quand on fait l'annonce, par exemple, c'est aux parents de faire l'accompagnement.
Est-ce que cette vision culpabilisante qu'on a de la maladie, à savoir que celui qui a contracté le VIH et celui qui a fauté, qui a été infidèle, qui a connu la vie de débauche, toutes ces fausses croyances qu'on a autour de la maladie, est-ce que ça aussi, ça peut être un frein au suivi, au traitement et à l'acceptation de la maladie finalement?
Naturellement, ça se manifeste déjà par la difficulté à l'annonce. Voilà, parce que le parent qui vient, quand on lui dit, c'est vrai que l'enfant a grandi avec la maladie, mais aujourd'hui il a 12 ans, il doit connaître le visage de sa maladie, il doit pouvoir connaître la maladie, apprendre à vivre avec. Donc la difficulté du père ou de la mère, la première réaction c'est non, laissez-le comme ça, je pense que ça peut aller. Parce que sa crainte, quand on dira que c'est le VIH et que l'enfant a l'information que le VIH se transmet par voie sexuelle possible, et que probablement c'est depuis l'enfance qu'il l'a eu, donc la maman culpabilise, elle se dit mais attends, il va me demander comment j'ai fait pour le contaminer, pourquoi est-ce que, dans quelles conditions j'ai été contaminé moi-même. Autant de questions qui font que la maman refuse ou bien a des difficultés à faire l'annonce à l'enfant. Alors qu'un enfant qui n'a pas l'annonce, c'est le premier facteur en termes d'échec thérapeutique chez les adolescents. Or, cette annonce est souvent bloquée par cette, ce que vous venez d'évoquer, l'attitude de culpabilité ou bien de culpabilisation même dont les parents souffrent.
I try baby pizza, I'm pen potom potom. On se Gucci, on se pam, sing, sing. So many kakra on fimi, I be shaming hoa asa yang, trim, bang. You the do me look a licky, you so naughty, naughty, naughty. Naughty girl,
naughty,
not trey. Keep your body, now your body well. My mama nye bakwan, me go kan. Hey, hey, oh mami ye bakwan. I try, hummy sugar, hummy honey, I try, hummy ginger, hummy pepper,
Écoutez Priorité Santé sur RFI à l'occasion de la 7e reconstitution des ressources du Fonds mondial qui va déterminer les moyens consentis pour lutter contre le sida, le paludisme et la tuberculose pour les 3 prochaines années. Priorité Santé a suivi le travail d'une petite ONG ivoirienne qui bénéficie entre autres de l'argent du Fonds mondial dans sa lutte contre le VIH-Sida. Et à Bouaké en Côte d'Ivoire, notre reporter Igor Strauss a suivi le quotidien de ce centre Solidarité Action Sociale, une ONG spécialisée dans la prise en charge et le suivi de jeunes nés séropositifs ou qui ont contracté la maladie très tôt. Nés séropositifs, voici la suite de ce reportage d'Igor Strauss réalisé par Tiffany Menta et Victor Hull.
Moi, c'est Touré Marie. J'ai 20 ans, étudiante en licence d'anglais. Contrairement aux autres qui sont nés avec la maladie, moi, je ne suis pas née avec la maladie. Mais j'ai vécu un viol. J'ai été violée à l'âge de 8 ans. C'était très difficile parce que je ne pouvais pas m'imaginer. Donc, petit, j'avais peur et j'étais effrayée. Et après tout cela, j'ai commencé à tomber malade, malade, malade. J'avais les boutons sur le corps, voici, j'ai encore les taches. Diarrhée, je toussais. On a fait le dépistage du VIH et j'étais séropositif. Personne ne savait dans la famille que j'étais malade. C'est ma maman seulement qui savait. Donc j'ai fait la classe de 6e jusqu'en 3e. Il était stigmatisé par les autres, il était rejeté. J'ai connu beaucoup d'atrocités à l'école. Il y a des personnes même qui me frappaient. C'est arrivé en classe de première. Ma maman est rentrée sur Bouaké et elle m'a prise et m'a envoyée au centre SAS. J'ai commencé à prendre les médicaments, mais j'ai relâché. J'ai arrêté de prendre les médicaments. Classe de terminale, parce que j'étudiais, je faisais que étudier, je disais le bac ou le bac, donc j'arrêtais. Puis je me disais que c'était trop, pourquoi dans la famille, c'est moi seul, je prends les médicaments, pourquoi j'ai vécu ces atrocités. Je n'aimais pas la présence des garçons près de moi, mais grâce au SONSAS, tout a changé, grâce au psychologue. Il m'a aidé à m'approcher des hommes, à faire confiance aux hommes. Il m'a donné des conseils de prendre bien les médicaments. Il cause avec toi comme un père. Il te laisse parler et après, il ajoute, il te donne des idées, il te donne des conseils.
Et aujourd'hui, vous avez pardonné aux hommes?
Oui, j'ai pardonné aux hommes. Tout le monde n'est pas pareil. Aujourd'hui, je me sens à l'aise. J'ai une charge virale indétectable. On ne peut pas guérir de la maladie, mais on ne peut plus contaminer une autre personne, quand vous prenez bien les médicaments. Et puis, je suis en relation avec quelqu'un qui m'aide, qui connaît mon statut, et je me sens beaucoup à l'aise. Je sais que Dieu fait grâce.
Dans le centre,
on est en
passe par le secrétariat.
Voilà, un type secrétariat.
Pour avoir accès à la grande salle de réunion.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Là, effectivement, il y a une bonne quinzaine de jeunes femmes et de jeunes hommes.
Ils sont dans, comment dire, dans notre programme de prévention. Et notre programme de prévention, on a des cibles différentes. Et donc, en fonction des cibles, nous identifions dans chaque cible des pères éducateurs à qui on apporte la formation pour la communication sur le changement de comportement en matière de lutte contre le VIH. Et à leur tour, ces pères éducateurs-là répercutent ces informations-là dans leurs différentes communautés. Nous avons le groupe des conducteurs de moto-taxi. À Boaké, quand on parle de moto-taxi, c'est une cible importante parce que, pour rappel, en 2016, lorsqu'on commençait à intervenir sur la cible des moto-taxis, c'était une population d'environ 8 000 personnes, rien que pour Boaké. Et dans cette cible-là également, on leur reprochait beaucoup de choses, notamment la question de la grossesse en milieu scolaire, parce qu'ils transportaient beaucoup d'élèves jeunes filles, donc ils étaient beaucoup à la base des grossesses en milieu scolaire. Mais également, on leur reprochait beaucoup de viols en son temps. On avait échangé avec le préfet de police qui estimait qu'il y avait 25% des cas de viols qui étaient imputés à des conducteurs de mototaxi. Donc nous, à l'époque, en 2016, nous avons rencontré le syndicat des mototaxis avec qui nous avons monté un programme de sensibilisation qui était appuyé par l'UNFPA. On a formé une vingtaine d'éducateurs des pairs et eux, ils étaient censés, on les encadrait dans la sensibilisation au sein de la communauté.
Moi, c'est Amadou Koulibaly, responsable mototaxi, père éducateur également.
Et donc, on disait, la situation était un peu chaotique avec les mototaxis à l'époque. Vous avez vu, vous, des abus?
C'est vrai, c'est vrai. Moi-même, ça m'est arrivé à quelques reprises. Il faut dire que...
D'avoir des relations avec des jeunes filles?
Oui. Bon, on en appelait ça balle à ce moment. Il faut dire que c'est les filles elles-mêmes qui provoquaient le mototaxi. Souvent, elles ont l'argent, elles viennent, elles montent, elles font coup sur toi jusqu'à... Bon, Dieu merci, le sens ça nous a approchés. Il y a des choses qu'on ne savait pas avant. Même comment porter le préservatif correctement, on ne savait pas. Tu as dit à quelqu'un VIH, lui même, c'est même pas. Ou bien IST. Tu as dit ça à un mototaxi, il va te dire c'est quoi IST. Grâce au sens sas, on a eu les informations, on les a approchés. Et Dieu merci, je pense que les choses ont changé.
Mais juste, le portrait type d'un mototaxi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été à l'école ou pas trop? C'est quelqu'un qui a accès aux informations ou pas trop? Le niveau intellectuel, social, c'est quoi?
Vraiment, il faut dire que 90% des mototaxis sont des analphabètes, c'est des illettrés. Donc, ils n'avaient pas l'information comme quoi il faut se protéger.
Respecter les jeunes filles.
Voilà, respecter les jeunes filles, ne pas s'adonner aux gens de pratique. Ils n'avaient pas ces informations-là. Aujourd'hui, grâce au sens-sas, les mototaxis ne font plus ça. C'est vrai, au début, ce n'était pas facile. Tu as dit à quelqu'un, non, on ne peut pas faire ça là. Alors que lui me voit que non, ça l'arrange. Donc vraiment, on ne s'entendait pas. C'était un peu difficile, mais au fur et à mesure, les sensibilisations, ça a changé.
Et vous, avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de ce changement de comportement? Vous trouvez que c'est une bonne chose?
Oui, c'est une bonne chose. Une bonne chose. Je pense que si la jeunesse est mieux informée, les comportements changent. Et quand les comportements changent, c'est bon, c'est positif pour la société. Personnellement, avant... On roulait en moto, il y avait l'argent, bon, les filles aussi étaient là. On s'envoyait en l'air sans calculer. Depuis 2016-2017, avec l'appui du sens-sas, vraiment beaucoup de choses ont changé chez moi. Aujourd'hui, moi, je suis marié, ça fait 3 ans. Ouais, je n'ai jamais trompé ma femme. Alors qu'avant, là, non. Chaque samedi, je dors dehors. C'est la même chose pour les autres aussi. Si moi, j'ai pu changer, c'est que les autres peuvent changer. C'est ce que je me dis, quoi.
Donc à côté des mototaxis, nous avons aussi les jeunes filles vulnérables qui sont dans les marchés et les gares routières. Donc c'est des jeunes filles qui sont très peu informées et aussi qui, du fait, n'est-ce pas, de leur vulnérabilité économique, font des petits métiers et aussi ont des activités sexuelles avec plusieurs partenaires parce qu'il faut pouvoir arrondir les fins.
C'est de la prostitution, mais qui ne dit pas son nom finalement.
Oui, on va dire la prostitution clandestine, elles ne sont pas affichées. Et donc, avec cette cible-là, nous avons compris qu'il y avait des interventions à mener, surtout que les jeunes filles de 14 à 24 ans en Côte d'Ivoire faisaient partie de la population hautement vulnérable face à l'infection en VIH. Donc nous avons également identifié des jeunes filles que nous avons formées également en matière de communication pour le changement de comportement. Et à leur tour, ces jeunes filles-là répercutaient les informations dans les salons de coiffure, dans les salons de couture, et également avec les petites vendeuses, à l'effet de les informer sur le VIH, sur la prévention du VIH, mais également les mobiliser à faire le test de dépistage et tous ces aspects.
Bonjour à tous, je me nomme Kwasi Mélène. Je suis titulaire d'un BTS en tourisme et hôtellerie, également éducatrice de paix sur le projet IR Crochet. Il faut entendre par là, méfie-toi. Méfie-toi de quoi? Du VIH, des grossesses en milieu scolaire, des grossesses à risque, comme on le dit dans notre jargon. Voilà. Pour nos jeunes filles, ce n'est pas facile. Pour arriver à là, être peut-être coiffeuse, couturière ou bien vendeuse dans les marchés, vraiment. Il y a d'autres qui sont bâties à l'école, mais qui n'ont pas pu terminer l'école faute de moyens financiers, soit aussi peut-être en cours de route, il y a eu des délaissements au niveau des parents. Donc, en fin de compte, tu es livré à soi-même. Et quand tu es livré à soi vraiment, il y a beaucoup d'activités qui te passent par la tête. On peut citer comme ça les activités sexuelles. Parce que,
la prostitution.
Voilà, la prostitution d'une certaine manière. Parce que nous, en tant que jeunes filles, on se dit que c'est la manière la plus facile de pouvoir avoir de l'argent. Mais tout en n'avançant pas notre réflexion, parce qu'on oublie qu'il y a des choses qui peuvent passer par là, comme le VIH-SIDA par là, comme des grossesses non désirées, qui nous aboutissent peut-être à des avortements et probablement à la mort. C'est ce que beaucoup de jeunes filles ignorent. Donc nous, on était appelés au moins à les orienter sur ces faits-là. Essayer de leur faire savoir que vraiment, peut-être pour elles, c'était des moyens pour avoir de l'argent, mais en réfléchissant qu'il y avait des dangers qui étaient liés à ça. Donc nous, c'était notre rôle, amener les jeunes filles à pouvoir se prendre en charge, mais de manière sainement. Je suis passée par là, donc j'ai connu plus ou moins la difficulté que ces jeunes filles menaient. Donc quand le SANSA m'a contactée, vraiment, je me suis sentie prête à faire ça. Et vraiment, j'ai été contente, j'ai passé vraiment une expérience vraiment extraordinaire. Parce que ça m'a plu moi-même de pouvoir amener des gens à devenir des personnes meilleures ou bien à se prendre en charge de manière sainement.
Donc à côté de ces jeunes filles vulnérables, nous avons également la cible des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées.
Ça, c'est fréquent?
Oui, dans nos zones, très souvent, les jeunes filles décrochent. Elles décrochent très tôt. On estime que quand la famille n'a pas suffisamment de ressources, on préfère faire partir le petit garçon à l'école et la jeune fille, elle reste à la maison. Et donc, n'ayant pas été scolarisées, elles ont très peu accès à l'information. On les retrouve très vite mères de famille, on les retrouve très vite infectées à VIH et donc ça pose des questions de genre, d'équité du genre et au niveau de cette jeune fille. Donc, nous avons développé aussi un programme qu'on appelait le droit à l'éducation inclusive et le maintien de la jeune fille. C'était un programme qui permettait à des mentors, donc des dames qu'on identifie dans la communauté, qui sont des modèles dans la communauté. Et ces dames-là constituent des cohortes de jeunes filles déscolarisées et non scolarisées dans leur communauté, à qui elles apportent des informations sur les leçons de la vie. Et les leçons de la vie, c'est 26 leçons, donc qui portent sur l'estime de soi, le développement de l'estime de soi chez la jeune fille, comment se prémunir de l'infection à VIH, comment éviter la grossesse non désirée. Et donc, tous ces aspects-là sont déroulés avec la même cohorte pendant 3 mois. Et à la fin, la jeune fille a suffisamment de compétences pour pouvoir décider si elle doit avoir des rapports sexuels ou non, et si également elle veut tomber enceinte ou non. Malheureusement, les ressources en termes de prévention s'amenuisent fortement.
C'est vrai, comment vous l'expliquez ça?
On ne l'explique pas, on subit. Il n'y a plus d'activités de prévention pratiquement, il n'y en a plus. Alors que le besoin existe toujours. Chez les mototaxis également, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a arrêté les activités avec les sensibilisations dans ce secteur, alors qu'il y a toujours de nouveaux conducteurs de mototaxis, encore plus jeunes, qui rentrent dans le secteur et qui sont déscolarisés ou non. Donc, c'est sans fin, quoi. Vraiment, c'est absurde de penser qu'aujourd'hui, on n'ait plus besoin de financer les activités de sensibilisation. Donc, comme le disait un de nos aînés, il dit que si on ne fait pas attention, au lieu de circonscrire l'épidémie en 2030, on risque d'avoir un boom avec des jeunes qui sont plus actifs et qui n'ont plus d'informations et qui ne se protègent plus et tout. Donc, voilà un peu.
Igor Strauss, votre reportage, cet exemple nous aide à comprendre à quoi sert l'argent du Fonds mondial et des autres bailleurs de fonds. On comprend aussi, peut-être surtout, pourquoi il est important d'investir davantage dans cette lutte contre les grandes épidémies que sont le sida, le paludisme et la tuberculose. Le fait que l'on abandonne la sensibilisation faute de moyens, ça semble tout simplement impensable.
Et incompréhensible, Caroline. Selon les dernières études en Côte d'Ivoire, 21% des nouvelles contaminations concernent des jeunes de 14 à 24 ans. Un chiffre énorme qui fait craindre en Côte d'Ivoire une résurgence de la maladie, alors que l'objectif mondial est l'élimination du VIH d'ici 2030. Les jeunes du centre SAS, les fameux pères éducateurs, font un travail remarquable auprès de toutes les populations vulnérables en manque d'informations. Mais ce travail de sensibilisation doit continuer, car il y a tous les jours des jeunes qui deviennent mototaxis, couturières, des jeunes qui abandonnent l'école, s'adonnent à la prostitution. Tout cela est évidemment lié à la pauvreté et n'est pas prêt de s'arrêter. Il est donc fondamental de mener des campagnes de sensibilisation.
Et ce travail de sensibilisation, Igor, concerne tout le monde, même les professionnels de santé.
Oui, les docteurs Zran et Diarra, les deux médecins du centre SAS, forment les médecins, les infirmières et des travailleurs sociaux au suivi et à la prise en charge des adolescents. J'ai assisté à l'une de ces formations et j'ai discuté avec les professionnels qui y assistaient. Tous étaient convaincus de la pertinence de la formation. Certains se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas pris en compte la spécificité de cette période, l'adolescence, dans leur prise en charge et que leur message, leur conseil n'était pas en adéquation avec cette classe d'âge. Cela démontre que tout le monde a besoin d'être sensibilisé. On ne peut pas se comporter de la même façon avec un jeune de moins de 5 ans, un ado, une femme enceinte ou un adulte. C'est en adaptant le message qu'on le fait accepter et qu'on limite les nouvelles contaminations, les échecs thérapeutiques et les perdus de vue.
Alors Igor, on retourne au centre SAS pour une consultation de PTME, prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Un suivi des femmes enceintes absolument essentiel pour ne pas transmettre la maladie au nouveau-né.
Je suis Estelle Kwasi, épouse à Dopo, sage-femme au centre SAS.
Bon, là, on a une maman avec son enfant pour la consultation. Normalement, l'enfant, il a 1 an, 6 mois. Donc, l'enfant, il doit sortir de la PTME aujourd'hui. Mais avant ça, on doit faire son dernier test pour le statut final. Si l'enfant, il n'est pas infecté, il est sorti séronégatif, lui est fini aujourd'hui. Il arrête de prendre les médicaments. Et on continue toujours le suivi de la maman. Mais de là, elle ne sera plus à la PTME, mais elle retourne aux adultes. Voilà.
Madame, c'est votre premier enfant ou c'est le...
C'est le sixième enfant.
Et vos enfants, ils sont tous négatifs ou ils sont...
Ils sont toujours négatifs. Je donne les médicaments bien. Et moi-même, je prends mes médicaments bien.
Et pour vous, ce n'était pas un problème?
Oui, ce n'est pas un problème.
Et le papa, il est au courant?
Il est au courant. Lui, il prend les médicaments.
Et il les prend bien?
Il prend bien. Il n'y a pas de problème.
Et vous, madame, comment vous avez découvert que vous étiez positive?
C'est mon mari qui était malade. Donc, lui, il a parti faire le test. Il dit que je n'ai qu'à faire le test aussi. Donc, j'ai fait le test. Ils ont dit qu'on est positif.
Elle est bien. Elle prend bien ses médicaments. En tout cas, elle suit bien ses rendez-vous. C'est une femme exemplaire. Je la félicite et puis je l'encourage toujours à bien, toujours bien prendre ses médicaments.
Alors la question, c'est est-ce que toutes les femmes sont aussi exemplaires que madame? Ou est-ce que des fois, il y en a certaines qui sont moins sérieuses, on va dire, dans la prise du traitement?
Effectivement, il y a certaines qui sont vraiment, vraiment difficiles. Pour la prise des médicaments, quand bien qu'elles savent même que l'enfant est en danger, exposé, mais ce n'est pas vraiment le problème. Elles sont vraiment difficiles à cerner. Donc, ce genre de personnes-là, il faut les revoir chaque mois pour pouvoir booster encore l'information et puis leur donner encore plus de conseils. Bon, voici le dernier résultat de l'enfant. Et le dernier test, il est négatif. Donc, l'enfant, il sort du programme aujourd'hui. Un gros ouf! On a réussi, on peut dire qu'on a réussi pour ce bébé. Donc, on est très heureux. Et en tout cas, on encourage la maman aussi. Elle a bien suivi nos conseils. Quand c'est comme ça, nous aussi, on est contents. Parce qu'on se dit qu'on a bien fait notre travail.
Alors, madame, vous êtes contente?
Je suis contente. Ça me fait plaisir même.
Le papa, il va être content aussi?
On doit fêter même aujourd'hui.
Vous allez fêter ça?
Donc, on a fini aujourd'hui avec toi. Salue-moi. Merci beaucoup. On se dit au revoir.
Au revoir.
Ah, mon Dieu, elle est fâchée.
D'habitude, quand il jette mes documents par terre, il garde tout ici. Aujourd'hui, là, il est tranquille comme ça.
D'accord, donc tu vas à la réception. Et puis, de là, tu vas prendre tes médicaments à la pharmacie. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente. En tout cas, on a bien commencé, on a bien terminé. Donc, c'est pour dire encore que une femme infectée par le VIH peut mettre au monde un enfant sain. Voilà, et c'est le cas ici. Voilà.
Et c'est avec cette bonne nouvelle qui nous ravit également que se termine cette émission. Né séropositif, c'était un reportage d'Igor Strauss, réalisé par Tiffany Menta et Victor Hull. Demain, dans Priorité Santé, c'est Raphaël Constant que vous retrouverez à ce micro. Une émission consacrée à la prévention et à la prise en charge des maladies de la prostate. L'occasion, bien sûr, de répondre à toutes vos questions au 33 1 84 22 75 75. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.